alors que ça vous fait un audio capteur.
Ouais, alors que vous prenez votre truc tellement joli.
Ouais. Ouais, en même temps.
Le micro.
C'est quoi là le zoom, il s'en passe pas du micro et en bas.
Ok.
Ouais, donc, non, pas de problème. Donc du coup, voilà, je reprends depuis le départ. Donc l'idée, c'est de présenter l'idée de monter un laboratoire populaire coopératif. Alors, de biologie ou de microbiologie, ou voilà, ça dépend un peu de qui veut faire quoi, des forces qui sont en présence. Et donc là, mon idée, c'est de faire un peu le tour voilà, des forces en présence, d'essayer de voir qui a envie de faire quoi à Montpellier. Le premier endroit où je me suis dit que ça valait le coup, c'était ici, avec le Hackerspace, qui me paraît être très proche de l'idée de ce que je me fais, moi, du bio-Hackerspace. D'autant qu'il peut très bien y avoir des interactions, notamment... pour tout ce qui est réparation de matériel, etc. Moi, au laboratoire, je suis en train de récupérer plein de trucs qui sont foutus à la poubelle. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un un peu bricoleur, il l'ouvre, c'est juste un truc à ressouder ou à enlever l'oxydation, et puis ça marche très bien. Quoi. Donc ça me paraît, voilà, ça me paraît assez naturel de venir ici. Donc voilà, donc du coup, je me suis présenté, voilà, je suis chercheur dans la recherche publique, je suis en poste, pour l'instant, j'ai pas de souci à me faire, avec ceux qu'on a en face, on ne sait jamais. Voilà, donc je fais ma thèse en virologie évolutive, et puis j'ai travaillé après, j'ai été recruté sur le virus de plantes, et maintenant je travaille sur le virus de bactéries. Voilà. Donc là, ouais, cette troisième diapo, c'est pour une politique néolibérale reposant sur la dépossession. L'idée que j'avais, c'était de montrer un peu quel était moi mon angle de vision, ma lecture du monde. Non pas parce que je pense que le groupe que j'aimerais voir se mettre en place devrait avoir ces idées, pas du tout. Mais c'est juste que voilà, j'aime bien être précis sur qui est qui fait quoi et qui. Qui pense quoi. Donc voilà, donc pour moi, on est vraiment, la politique néolibérale, elle repose vraiment sur la dépossession et de l'usage commun des biens communs, de par la mise en place de la propriété privée et de l'accaparement, des terres, de l'accaparement de tout quoi. De aussi la déposition de par la production des biens, notamment au travers du brevetage, et puis la déposition des connaissances en spécialisant chaque personne et en disant non, mais on ne peut pas tout faire, c'est pas possible, etc. Or, tout ça, ça nourrit clairement un système, une politique qui voilà, capitaliste, bénéficie à certains et voilà ceux qui ont le capital et qui pour pouvoir enfin bon j'imagine que vous devez avoir une analyse en tout cas sur certains qui ont la force de travail, d'autres qui ont le capital et puis comment ça se fait qu'aujourd'hui on accepte ça quoi. Et ça c'est un truc qui me travaille pas mal et l'une des réponses que j'ai essayé de trouver, c'était justement au travers de l'action directe, comme je parlais tout à l'heure, qui est allons-y quoi, arrêtons de nous laisser faire de cette dépossession et de l'usage des communs et de la production des biens et des connaissances. Donc il faut réacquérir tout ça. D'autant que cette dépossession a des conséquences à la fois sur la destruction du terrestre. Alors là, je mets terrestre parce que c'est difficile d'utiliser le terme Gaïa, d'utiliser le terme planète, d'utiliser le terme Terre. C'est, voilà, donc c'est, là, il y a un bouquin récent là, qui est sorti qui propose, au lieu d'utiliser tous ces termes, on utilise terrestre Bon, c'est pas très satisfaisant, mais bon, voilà. Il y a cette idée que bah, la dépossession fait qu'on est, on est dépendant et on perd une grande part de notre liberté et donc une grande part de l'égalité entre chacun de nous. On perd les liens sociaux, on perd la possibilité de partager et puis on rentre en conflit de par notamment le conflit des savoirs. Bon, un exemple que vous verrez qui me paraît important pour moi, c'est notamment le rapport à la médecine et à la santé. Aujourd'hui, il y a un rapport avec les médecins qui est très conflictuel, parce que eux ont le savoir et ça peut faire ta gueule. Et alors que la loi, alors que l'idée en fait même au départ, c'est qu'on puisse nous-mêmes être responsable de notre propre corps, de notre propre santé, et qu'on puisse agir de manière libre et en pleine connaissance de cause, quoi. Donc la quatrième diapo, c'est la connaissance comme un outil d'émancipation collective. Et donc là, je fais notamment référence à un concept que je trouvais assez intéressant, qui est développé par les zapatistes l'an dernier et ils font encore une conférence cette année. C'est la science de la libération ou la science de l'émancipation qui m'intéresse qui m'amuse dans l'utilisation de la science de la libération, c'est que ça fait un peu référence à la théologie de la libération, qui est une théologie révolutionnaire. Et hormis le fait qu'elle soit théologie, elle est néanmoins à la base de pas mal de mouvements révolutionnaires en Amérique latine. Et donc eux là sont en train d'essayer de mettre en place une science de la libération, faisant venir des scientifiques de partout dans le monde et en leur demandant qu'est-ce que vous prévoyez, vous, comme monde de demain, et puis surtout, comment on va faire, quoi, pour créer, c'est ce que disent les apatistes, pour créer des mondes où tout le monde puisse vivre, quoi. Et donc, à travers dans cette direction-là de la science de la libération, ce qui me paraît important, c'est il est absolument nécessaire d'avoir une science fondamentale et appliquée avec des objectifs politiques clairs. Et en l'occurrence, cet objectif, c'est l'émancipation des populations dominées. Ah, j'ai dit un E là. Excusez-moi. Et puis, avoir la capacité de faire des choix en connaissance et en responsabilité. Et il n'y a aucune raison qu'on se sert et qu'on dise que on ne peut pas. Parce qu'on n'a pas suivi les cours, parce que si, parce que ça. Et donc voilà, moi c'est vraiment dans cette optique-là que j'inscris ma démarche. Elle m'est personnelle et je pense que j'ai aucune volonté de vouloir convaincre de faire du prosélytisme ou quoi. En même temps, je sais que c'est ça qui, moi, me met en mouvement et que donc je ne veux pas le cacher. Après, ce que j'essaie simplement de dire, c'est que je cherche pas spécialement à ce que tout le monde souscrive à ces idées-là. C'est juste que ça, c'est le mien. Donc, dans ce mouvement, j'ai rencontré le Do It Yourself Biology, donc suite à l'avènement du Do It Yourself dans les années 2004, 2005. Des Fab Labs au MIT et puis ensuite les hackerspaces etc. qui se sont développés, les Do It Yourself Biology ont commencé à venir un peu après, donc en France le premier Do It Yourself Biology en France ça devait être 2009 ou un truc comme ça, et vous verrez que il y a eu un congrès Do It Yourself Biology avec plein de groupes qui sont faits dans le monde en 2011, etc. Donc c'est un mouvement qui est clairement qui est en train de se développer, c'est un peu partout. et qui repose en fait donc sur cette diapo, en fait, ça montre simplement qu'il n'y a pas besoin de, d'énormément de choses pour faire du do-it-yourself biology. Après, on peut avoir besoin, on peut avoir plusieurs besoins, c'est-à-dire qu'on peut avoir des, sur la droite là-bas, c'est des besoins très chers, donc avec une HPLC, avec différentes machines qui valent très cher, mais après, on peut aussi fabriquer des centrifugeuses, on peut fabriquer facilement une autoclave c'est une cocotte mini, quoi. Voilà, un frigo, etc., etc. Donc, l'idée, c'est ça, c'est à la fois de faire du recyclage et, pourquoi pas, de la fabrication de scratch à partir de,
hein,
d'outillage, voilà. Et puis, c'est un peu pour ça aussi que je présentais dès le départ, moi, ce qui m'a mis en mouvement, c'est que la question, c'est toujours la même, c'est pourquoi on veut faire ça, qu'est-ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est Do It Yourself Biology, bon, ça, c'est des exemples dans le monde, alors là, j'ai...
Vous avez un détail sur le site pour les lire,
ouais, non, mais là, c'est juste, tu vois, c'est juste toutes les adresses de tous les groupes européens. Il y a la même liste pour les groupes aux États-Unis, en Asie, en Australie, etc. Donc c'est un mouvement mondial qui est quand même assez assez intéressant. Moi j'ai contacté, j'ai fait le Do It Yourself Biology Barcelone. Ils ont commencé comme vous pouvez voir avec en faisant de la bière et puis maintenant ils en sont à faire des trucs assez amusants. Voire franchement sérieux. Nous, on est allé faire un stage. Donc, on aura proposé de faire un stage justement sur ce que vous verrez après sur les bactériophages. Donc, c'est quelque chose qui est très simple à faire. Voilà, c'est typiquement un groupe qui est très. Qui est assez peu nombreux. Hein, et, enfin, comment. L'équipe qui est dans le. DIY Barcelone, ils sont 5 ou 6, mais après, il y a du monde autour, c'est très dynamique. Etc. Après, j'ai contacté aussi le groupe de Namur, hein, c'est le petit groupe sur la droite. Eux, ils sont, pareil, très peu nombreux. Alors, le groupe de Barcelone, eux, ils fonctionnent sur du crowdfunding. Ils ont un labo, ils ont une grande salle, un peu la moitié de cette salle, sur lequel il qui a été enfin, qui leur est prêté je crois qu'il payait rien par la ville de Barcelone et là-dedans ils font un peu ce qu'ils veulent donc voilà ils font de la bière évidemment il y a un frigo et ils font pas mal de bidouillage justement pour une étuve une tu vois des centrifugeuses des machins des trucs et alors ça c'est intéressant de voir notamment les trois groupes que moi j'ai contactés qui fait quoi. En fait il y a pas mal de groupes qui font qui sont en fait des pépinières d'entreprise. Donc typiquement le groupe de Barcelone, c'est assez étonnant, c'est-à-dire que l'une des cinq personnes qui gère le groupe, à côté, elle a sa petite entreprise de fabrication de alors, en l'occurrence, elle fabrique des molécules qu'elle va vendre à des entreprises pharmaceutiques. Mais elle les fait avec du bidouillage do-it-yourself. Donc, tu vois, c'est assez amusant. C'est-à-dire que c'est le do-it-yourself biology de Barcelone. C'est comme si c'était une antichambre de sa start-up, quoi. Et en fait, la mine, par exemple, qui est à Lyon, c'est un peu la même chose. La mine, on les a contactés, on a discuté avec une des filles du groupe. Donc eux, ils ont un board qui, voilà, qui va accepter. Alors, quand tu veux rentrer dans le local pour pouvoir faire tes manips, tu déposes un projet, tu vends un peu ta cam, et eux ils vont dire ouais d'accord alors ils ont trois critères est-ce que c'est coopératif. Est-ce que, alors, j'ai recherché mes notes, mais je ne les ai pas retrouvées. Il y a un côté de coopératif et il y a un côté qui est très naïf politiquement parlant, qui est c'est positif. Je sais pas ce que ça veut dire, positif, mais tu vois, si c'est positif pour le capital, moi ça va pas me plaire, mais eux ça leur plaît, bon. Et pourquoi pas, je veux dire, après c'est toujours pareil, c'est en même temps, si on se retrouve à une seule personne convaincue de ses propres idées extrémistes, bon, c'est pas drôle, quoi. Donc, pourquoi pas, dans la mesure où ça peut... je sais pas. C'est une discussion qu'il faut pouvoir... Je pense qu'il faudrait pouvoir être ouvert à avoir. Le groupe de Namur, là, donc en haut à droite, c'est donc un petit groupe de 4-5 personnes. Eux, ils font des ateliers régulièrement. Quand on a discuté avec eux, un mois après, ils allaient dire « Ouais, c'est super les trucs sur les phages, on va faire un atelier phage. » Et puis, ils ont fait leur atelier phage. Donc, on y reviendra. Mais voilà, donc, et eux, ils fonctionnent avec pas grand-chose. Ils travaillent et puis en dehors du travail, ils viennent dans leur labo. Ils ont pareil un lieu qui leur est, je crois, prêté par la ville. Donc eux, c'est clairement des... Quand je lui disais, mais qui est-ce qui vient à tes ateliers, etc., ils disaient, c'est des gens qui sont passionnés de biologie, qui sont sortis du système institutionnel, de la fac, etc., soit parce qu'ils ont fait leur thèse, leur postdoc, puis au bout de 5 postdocs, ils en ont eu marre, et puis voilà, ils sont passionnés par la biologie, mais ils n'ont pas leur place dans l'institutionnel. Quoi. Donc effectivement, il y a clairement là une effectivement plein de gens qui se bouffent les couilles parce qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils aiment et que pourtant s'ils avaient les moyens, ils le feraient. Et donc typiquement les do-it-yourself, les labos populaires typiquement pourraient avoir ce genre de gens qui ont envie de voilà sur la liste. Je sais pas, c'est peut-être un de vous qui a dit ouais moi j'ai fait une machine à PCR pour pouvoir aller détecter les OGM. Typiquement voilà, on serait ça, il y en a plein des gens qui ont des idées comme ça, et ça pourrait être je pense que c'est intéressant d'essayer de faire brasser justement toute cette énergie, quoi. Alors, en 2011, ils ont fait, semble-t-il, une réunion où ils ont réuni un peu tout le monde. Donc là, sur la gauche, on voit tous les gens d'Europe, là. Donc, il y a Berlin, Fribourg, qu'est-ce qu'il y avait certainement il y avait Paris, Irlande, Manchester, Londres, voilà. Donc, ils se sont réunis, ils ont dit, voilà, qu'est-ce que vous faites, hein. Et sur la droite, ils ont essayé de rassembler un peu pourquoi ils faisaient ça. Donc là, c'est pour ça qu'ils ont mis les 5 W, là, le what, who, where, why, et puis how. Les 5 W, j'aime bien parce que ça permet de ne pas en oublier un, parce qu'on en oublie toujours un. Après, c'est un peu management à fond les ballons. Ça, leur positionnement politiquement est très clairement pas le mien, mais en même temps ça a le mérite d'exister. Donc on a sur le trèfle là, on a en haut le positif, en bas le négatif. Donc le positif c'est légal, le négatif c'est illégal, et puis sur la gauche c'est safe et sur la droite c'est high risk. Et donc on peut voir que dès que c'est high risk, il n'y a personne. Ils disent que c'est non. Et puis, sur la gauche, il ne faut pas que ça soit illégal, il faut que ça soit légal. Bon, voilà. Je pense qu'il faut juste utiliser ce schéma et puis regarder qu'est-ce qu'on a envie. Moi, c'est toujours pareil. On n'est pas obligé de souscrire à tous, mais ça permet de poser des questions et pourquoi pas. Ça, c'est là. Et en même temps, ce qui me paraissait intéressant de mettre... Ça là, c'est que voilà, si on... C'est intéressant de voir les expériences des autres et de se positionner par rapport à ces expériences. Alors, dans ce congrès, en 2011, ils ont émis un code d'éthique où ils mettent en avant donc la transparence, la sécurité, l'open access, l'éducation, la modestie, le fait que on est une communauté, le fait qu'on a des propos
peaceful, des intentions pacifiques.
Voilà, des intentions pacifiques, le respect du genre humain et puis de toutes les systèmes vivants. La responsabilité et puis
la responsabilité.
Voilà. Donc vous pouvez voir aussi que sur la droite il y a le code éthique des États-Unis qui est relativement proche de ceux qui sont européens. Bon, moi moi je souscris clairement pas à tout, mais voilà, c'est au groupe de... Mais ce qui me paraît intéressant par contre, d'émettre un code éthique pour tous les groupes dans lesquels j'ai fonctionné, je pense que quand on fonctionne sans texte de référence, on se perd assez rapidement. Et donc du coup, c'est peut-être pas mal de réfléchir aux valeurs qu'on veut défendre, et donc de ces 5 W là, pourquoi on fait ce qu'on a envie de faire, quoi. Et donc pourquoi faire, pour qui, par qui, comment, et puis où ça. Donc moi, pour ça, j'ai une proposition, c'est de travailler sur les microbiomes. Alors pourquoi les microbiomes? Parce que je pense que c'est un sujet qui touche à la fois le terrestre, la vie, et puis l'alimentation, la santé, et donc d'acquérir des connaissances sur les microbiomes, ça me paraît intéressant, notamment parce qu'on a la capacité très facilement, sans technologie justement, avec uniquement un peu de technique, on a la possibilité d'aller très loin. Alors, les bactéries sont partout, elles participent au changement global, puisque on sait que dans l'océan, il y a des cyanobactéries qui captent le CO2 qui en réémettent, et que c'est clairement quelque chose qui participe très grandement au changement climatique. Et on pourrait y avoir, donc ça c'est des photos qui effectivement ne ressortent pas très bien, mais c'est énorme, quoi. Vous voyez la taille de un bout de la France, voilà, c'est des continents entiers de les blooms, c'est immense, quoi. C'est des milliards de bactéries qui se développent, qui poussent puis qui disparaissent. Alors on pourra en revenir, la plupart du temps ils disparaissent parce qu'il y a des phages qui les attaquent, etc. Donc il y a clairement mais donc les bactéries sont clairement partout. Alors après il y a des bactéries bénéfiques qui vont participer à la croissance des plantes avec des bactéries symbiotiques. Bon là j'ai mis le cas de toutes les la luzerne par exemple, mais aussi des bactéries bénéfiques qui nous permettent de digérer toute la cellulose, etc. Ou des bactéries qu'on utilise pour faire des yaourts, du kombucha, de la bière, des saucissons, etc. etc. Et évidemment, des bactéries bénéfiques sur lesquelles maintenant les entreprises se font de plus en plus de fric, et notamment au travers des probiotiques. Alors que, grosso modo, ça n'est rien d'autre que de faire du yaourt, quoi. Quand on voit le prix des probiotiques, c'est énorme, quoi. Alors, et le prix du yaourt aussi. Mais là, si tu veux, c'est une gélule. Là, pour ça, là, ça, c'est des gélules pour vaginaux, parce que, ouais. Il s'avère que moi, je travaille sur justement les communautés bactériennes qui sont justement inféodées au tractus génital. Donc du coup, si tu veux, pour une gélule, enfin chaque gélule vaut 1 euro, quoi. Et donc du coup, tu te dis, mais attends, je comprends pas, il y a une bactérie, tu l'as fait pousser, bon, il faut des normes de sécurité, mais enfin, je veux dire, c'est pas... La norme de sécurité, elle dépend de quoi? Elle dépend du fait que tu ne dois pas avoir des contaminants, mais ça, voilà, c'est la base de la microbiologie. Et puis, y a peut-être deux, trois critères de sécurité, mais franchement, quand tu fais ton yaourt chez toi, tu te poses pas le problème. Et moi, j'ai rencontré des filles qui disent, mais moi, quand j'ai une inflammation de mon vagin, je mets du yaourt, quoi. Et ça va vachement bien. Je veux dire, quand tu vois qu'elles sont capables de mettre du yaourt, tu te dis, mais attends, les mecs qui se font du blé incroyable à faire des probiotiques, à vendre ça une fortune, moi ça m'écœure, quoi. Donc voilà. Non, mais.
Comme ça, vous carrez la gueule dans la chatte, ça m'écœure un peu aussi, mais.
Quand tu vois ce qu'elle est, quand tu regardes ton machin que tu leur mets dedans, vu que tu m'as dit que tu avais deux enfants, je veux dire, bon. Presque, je préférais des yaourts, hein, parfois.
C'est clair.
Bon, donc du coup, là, je voulais montrer qu'il y avait. En fait, les communautés bactériennes sont très différentes selon les endroits. D'accord ? On ne va pas avoir les mêmes communautés dans le nez, dans la bouche, dans l'intestin, etc. Et donc, à la fois, on va avoir des bactéries qui sont commensales, qui sont, voire symbiotiques, qui nous apportent un certain nombre de nutriments, etc. Et évidemment, il y en a qui sont pathogènes. Alors, forcément, quand on parle de pathogènes, on dit, ouais, bah, c'est pas grave, parce que de toute façon, on a les antibiotiques, et justement, là, on arrive sur la problématique qui est relativement nouvelle, finalement. Dans les années 2000, on commençait à peine de parler des bactéries multirésistantes, et puis on disait, ouais, c'est pas très grave. Aujourd'hui, on estime que ça tue 700 000 personnes en France. Alors, est-ce que c'est... ou que ça touche 700 000 personnes, ça tue pas. Ça touche 700 000 personnes en France par an. Donc c'est encore aujourd'hui relativement peu, ça fait relativement peur, mais quand on regarde point par point, alors là c'est Shigel, on voit qu'on a des croissances aux États-Unis très importantes, Bangladesh, Ouganda très importantes, des Shigel multirésistantes à tous les antibiotiques. Là, la diapo suivante, c'est sur... des clepsiels pour tout ce qui est pneumonie. Bon, bah là, pareil, en Europe et en France, on a plein de résistances. Ce qui fait qu'il y a une étude en 2014 qui a été sortie et qui dit qu'à l'horizon 2050, les maladies bactériennes liées aux bactéries multirésistantes seront la première cause de mortalité au monde. Avec 10 millions de morts par an dans le monde entier, bien plus que le cancer, le choléra, le diabète, etc. Et comme on sait, il y a des bactéries partout, des bactéries multirésistantes partout et des frontières nulle part, notamment quand on regarde les trafics aériens et qu'on voit que, de toute façon, on aura beau faire tous les blocus qu'on voudra, les bactéries multirésistantes qu'on voit apparaître à un endroit, on les voit apparaître à un autre endroit, comme on l'a vu pour le HIV, comme on l'a vu pour Ebola, etc. etc., etc. Donc, clairement, les bactéries multirésistantes sont clairement un problème auquel il va falloir faire face. D'aucuns pourraient dire, oui, mais c'est pas grave, on va trouver des nouveaux antibiotiques. Quand on regarde la découverte de nouveaux antibiotiques là, sur ce graphe, on voit que les entreprises trouvent de moins en moins de nouvelles molécules. D'une part parce que en fait toutes les molécules on les a déjà trouvées, quoi. Et que en fait maintenant trouver des nouvelles familles, ça devient super difficile. Ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que les entreprises elles n'ont pas tellement intérêt, ça les intéresse plus trop, parce que maintenant, elles, ce qu'elles préfèrent, c'est les maladies chroniques, parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir avoir des marchés captifs et qu'elles pourront se faire vachement plus de blé. Et là-dessus, elles disent, à chaque fois que je sors un antibiotique, en 3 ans, il y a des bactéries résistantes à ce nouvel antibiotique qui apparaissent. Donc, j'ai pas de retour sur investissement. Donc, bah, j'arrête. J'arrête la recherche. Alors, donc, tout cet ensemble de facteurs fait que je crois qu'on arrive vraiment de plus en plus proche de l'ère où on va avoir des bactéries multirésistantes qui vont se balader de plus en plus, qui vont nous atteindre de plus en plus facilement. Et donc, il faut vraiment que chacun d'entre nous se saisisse, parce qu'on ne peut pas faire confiance, si jamais on n'a jamais pu faire confiance, dans les big pharma. Alors, par rapport aux antibiotiques, il y a un truc qui existe depuis avant les antibiotiques, c'est les bactériophages. En l'occurrence, ça a été découvert en 1917 par un Français. Et depuis 1917, dans les pays de l'Est, c'est développé. Ils ont continué à les produire, à les purifier, à les vendre. Aujourd'hui, on va dans une pharmacie. Moi, j'ai des gens qui vont. J'ai rencontré des gens qui allaient à Moscou. J'aurais dit, ah ouais, tu peux me ramener tel phage. Et ils m'ont ramené des petites fioles comme ça. Et effectivement, quand je les teste sur mes bactéries, je vois que ça tue les bactéries. Et effectivement, certains médecins ici en France achètent des fioles et s'en servent sous le manteau, parce que c'est interdit actuellement en France et en Europe, mais pour soigner des bactéries multirésistantes. Et on commence, alors là, depuis cette année, on commence à voir des cas, enfin, où l'Agence française du médicament accepte d'utiliser des bactériophages, parce qu'il y a, dans les cas compassionnels, c'est-à-dire le gars, soit il meurt, soit on lui donne des bactériophages. Donc on lui fait signer un truc en disant, on ne sait pas ce qu'on te donne, mon gars, mais vas-y, tu signes là, et puis on te traite, et effectivement ça marche. Donc, d'un côté, on a les pays de l'Est qui vendent ça dans toutes les pharmacies, et d'un autre côté, ici, on est vraiment assez réticent, voilà, j'avais le mot anglais, mais réticent à l'utiliser, et espérons que ça se développe. Donc voilà, contre les brûlures, contre les diarrhées, vous allez sur internet, vous trouvez, vous voyez très bien l'intestin, là, celui qui est en bas là. Il y a une étude scientifique qui a regardé combien il y avait de phages dans cette fiole, et il y a 23 phages différents qui ciblent une dizaine de bactéries. Donc ça veut dire à peu près 5 phages par bactérie. Donc les différentes bactéries qui sont ciblées, ça va être Escherichia coli, Salmonelle, Klebsiella, Pseudomonas et Staphylocoque ou Streptocoque dans l'intestin. Mais après, on peut, par exemple, contre les brûlures, ça va pas être le même cocktail. Ça va être un cocktail qui va cibler Pseudomonas et Staphylocoque. Parce qu'évidemment, selon les problèmes qu'on a, on n'a pas les mêmes bactéries qui sont opportunes. Alors, de quoi on a besoin aujourd'hui pour fabriquer des bactériophages? Ben d'abord, on a besoin d'une pièce. Alors là, j'ai pris une photo. C'est la photo de l'Institut Pasteur, et c'est là où Pasteur a fait ses découvertes, lui. Donc ça veut bien dire qu'on peut faire de la microbio dans des environnements ouverts. Qu'il faut juste avoir une salle qui est dédiée quand même, et je pense qu'une salle où il y a une cantine, je pense que ce ne sera pas possible. Mais voilà, ce qu'il nous faut, c'est une pièce, si possible sans courant d'air. Il faut du matériel pour travailler dans des conditions stériles, donc c'est-à-dire un burner, un bec benzène. Et puis une cocotte minute pour se débarrasser pour stériliser le tout. Après, il faut des boîtes de pétri pour pouvoir isoler les bactéries. Il faut isoler les phages sur les bactéries. Donc ça, les phages, on va dans le LED, on trouve des phages. On va dans les égouts, on trouve du phage.
Quand on dit phage, c'est trouver des
bactériophages. Ouais. Enfin, voilà. Quand on dit bactériophages, c'est ça. Le mot phage, c'est le. En fait. Partout où il y a des bactéries, il y a des bactériophages. Et l'idée, la manière d'isoler des bactériophages, en fait, c'est tu prends de l'eau. Nous, quand on a fait le stage à Barcelone, on a pris de l'eau, on a demandé aux gens de ramener de l'eau. Il y en a une, elle a ramené de l'eau où son chat avait bu. D'accord ? C'était blindé de pseudomonas et c'était blindé de phages contre les Escherichia coli. Donc, après, on a. On est allé dans les toilettes, on a pris de l'eau des chiottes et il s'était blindé de phages, pareil. Tu vois ? Donc, des phages, il y en a vraiment partout. Quoi.
Il faut savoir, je vous parle, quoi. Les phages sont globaux ou ils vont plutôt manger ça, plutôt manger ça ?
Ouais, c'est super. Alors, c'est relativement. Enfin, comment dire ? Il y a certains phages qui sont très spécifiques, certains phages qui sont relativement généralistes. Alors, quand on dit généraliste, ils ne mangent que des bactéries. Ils ont besoin d'un récepteur qu'ils vont trouver. Ils ne vont pas détruire une cellule à nous, enfin tu vois, de caryote à nous.
Ils mangent que des plantes.
Exactement. Et comme toi, tu bois que de la bière. Tu vois. Donc tu vois, grosso modo, tu prends une bactérie. Imaginons que tu as une infection. On fait un isolement de ta bactérie sur boîte. Après ça, tu prends cette bactérie, tu la fais pousser dans un milieu nutritif que tu vois, tu vas trouver les...
Hein ?
Non, un milieu nutritif pour bactéries. Donc c'est la plupart du temps, c'est à base de soit de bouillon de, tu vois, tu fais cuire de la viande en bouillon et puis tu donnes ça, tu l'autoclaves pour que ce soit bien propre, tu vois, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de bactéries, que ce soit stérile. Ça, tu donnes ce bouillon à bouffer à ta bactérie que toi, tu as isolée. D'accord ? Donc, ta bactérie, c'est la fête dans ta bouteille. Et puis là-dessus, tu prends de l'eau que t'as filtrée par ailleurs. D'accord ? De l'eau, des chiottes, des égouts, du lait, du machin. Et puis, tu te balances dans la culture de la bactérie que toi, tu veux tuer. Et en fait, là, tes bactériophages... Si jamais il y a un bactériophage qui cible cette bactérie, lui c'est la fête du slip parce que lui il a que des bactéries à buter, tu vois. Et donc du coup en fait le lendemain tu peux avoir deux bouteilles, une où tu mets ton eau d'égout et une où tu n'en mets pas. Tu verras que ta bouteille là où il n'y a pas d'eau d'égout, elle va être toute trouble. Et si jamais l'autre bouteille dans laquelle tu as mis de l'eau d'égout filtrée, elle n'est pas trouble, ça veut bien dire que là-dedans il y a un bactériophage quoi, qui a tué. Et après, il y a moyen assez facilement, j'ai retiré l'image, il y a moyen assez facilement de. Tu prends cette eau dans laquelle, enfin cette solution dans laquelle ton bactériophage s'est reproduit, et en fait tu vas l'isoler sur une boîte, la même boîte de pétri, de la même façon que tu as isolé ta bactérie.
C'est toujours les bactériophages qui gagnent dans la bactérie.
Ouais et non. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la course aux armements. C'est que il y a deux manières de le dire, course aux armements ou la règle rouge. En fait, l'idée c'est que les bactéries vont devenir résistantes au phage. Tu vois, le phage va attaquer les bactéries. Et puis, il y a quand même des manières pour les bactéries de se protéger. Voilà. Et donc, si dans ta population, tu as une bactose qui mute sur le récepteur du phage, elle va devenir résistante. Mais là, il va y avoir pareil des mutations dans le phage. Tu vois, dans les autres, quand il se multiplie, mais il mute. Et donc, potentiellement, il peut muter sur le récepteur. Donc, tu vois... Tu vas avoir l'un qui mute, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre, puis l'un, puis l'autre. Tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de course aux armements ou de règne rouge.
Et pour chaque bactérie, il y a plein de phages ou il peut y avoir plusieurs ?
Il y en a plusieurs.
Mais les bactériophages, c'est des bactéries ?
Non. Les virus. C'est des virus. Donc, ça a toutes les caractéristiques du virus, c'est-à-dire que il n'a pas la machinerie génétique pour se reproduire. Il est obligé de parasiter une bactérie pour se reproduire. Donc, ce qui est important d'ailleurs, parce que quand tu traites avec des bactériophages, il va détruire la population d'hôtes, puis après ça, il va être là, il va flotter, puis il va être, il va dégager quoi. Donc si par exemple, tu vois, quand tu prends un testis, le cocktail, tu vas effectivement, tu prends un testis parce que tu as une diarrhée à salmonelle, tu vas effectivement détruire toutes les salmonelles, et puis au bout d'un moment, les phages qui sont dans ton intestin, ils vont être dégagés, parce que soit ils vont être dégagés par ton système immunitaire, soit parce que tu vas le...
Le système immunitaire,
c'est bien, ouais, dégager ça. Ouais, ah bah oui. Et le gros avantage des bactériophages, c'est qu'il n'y a pas d'effet toxique. C'est pas une molécule chimique.
Ouais, alors attends, du coup, je rebondis sur la question qu'il y a pour ce moment, et ça a un peu été dit, mais est-ce qu'à un moment, les bactériophages luttent suffisamment pour pouvoir se nourrir une autre bactérie, donc ça n'avait pas attention.
Effectivement. Alors, non, c'est une question très légitime, et c'est l'une des raisons pour lesquelles aujourd'hui, les instituts, l'Agence nationale du médicament dit « Ah ben non, surtout, jamais !» Bon, tu veux, d'une certaine manière, les probiotiques aujourd'hui sont vendus dans toutes les pharmacies, c'est des bactéries vivantes. On pourrait très bien envisager que ces bactéries vivantes, qui se multiplient dans toi, parce que tu les bouffes et t'en bouffes pas un, elles butent et elles deviennent méchantes. Or, ça, personne n'en parle. Le truc le plus amusant, aujourd'hui, tu as entendu parler du transplant fécal. Donc, hallucinant.
Complètement, il y a un mec qui s'amusait. Et c'est fort ce que ça faisait s'il changeait son tout le microbiome qu'il y a dans son système digestif, du coup, par transplant en fécal. Et du coup, oui, il a découvert que ça changeait pas mal de trucs.
Ouais, mais alors là, ce dont tu parles, c'est le microbiome. C'est le microbiome qui influence notre comportement, notre agressivité, etc. Mais le transplant fécal, c'est... En fait, aujourd'hui, c'est une thérapie qui est faite de plus en plus tous les jours. Hein. T'as beaucoup de gens qui ont une maladie... IBD, donc c'est une inflammation de l'intestin qui est liée à une bactérie qui est Clostridium. Et c'est une bactérie qui justement résiste à tout, etc. On n'arrive pas à s'en débarrasser. Et là, la technique qu'ils ont trouvée, c'est le transplant fécal. Ils te font bouffer de la merde d'un mec qui n'a pas ce problème. Je te jure, on te fait bouffer de la merde. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne sait pas pourquoi ça marche, mais ça marche super bien. Et peut-être que c'est parce que, en fait, ce qu'on fait bouffer, c'est des phages. Et alors, très bizarrement, aujourd'hui, l'agence du médicament permet le transplant fécal, mais ne permet pas les bactériophages. Va comprendre, ça on ne sait pas. Mais tout ça pour te dire que, tu vois, aujourd'hui, on utilise des techniques, tu vois, la thérapie génique, tu sais, donc les bébés bulles, etc. En fait, on utilise un virus pour aller implanter dans ton génome, dans le génome de l'enfant qui a la mauvaise mutation, pour aller lui implanter le gène, tu vois, la copie du gène qui n'est pas déficiente. On utilise un virus, tu vois. Et ça, je veux dire, des bébés bulles, il y en a eu, tu vois. Donc ça veut dire que... Mais effectivement, c'est un rapport qu'on a au virus qui est assez bizarre, en fait. Parce que les bactéries, ben, tu vois, les probiotiques, c'est bon, c'est accepté, tout le monde, il n'y a aucun problème. Alors que pourtant, une bactérie, y en a plein des pathogènes. Hein. Donc voilà, c'est assez... on a un rapport au virus qui est très étonnant. Y a une anthropologue là avec qui je travaille qui bosse sur ce rapport au virus qui est assez étonnant.
Mais bon, voilà. Donc, ouais, donc là, je faisais la liste des trucs dont on avait besoin. Bah, on a besoin d'un truc pour filtrer quand même, pour se débarrasser des bactéries. Et une fois que tu as reproduit ton bactériophage, avec tu reproduis tes bactéries, tu balances ton bactériophage, boum, il infecte tout le monde. T'as des milliards de bactériophages. Bon, tu filtres tout ça. Et du coup, tu peux t'en servir. Alors, évidemment, il faut le purifier. Il y a quelques trucs quand même qu'il faut vérifier. Mais ça, on le trouve dans la littérature, ce à quoi il faut faire attention pour que tu puisses appliquer une solution de bactériophage. Il ne faut pas qu'il y ait de toxines qui provoquent des chocs, etc. Mais, je veux dire, c'est pas énorme, quoi. Et puis, il faut que ça soit stérile. Bon, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit bien filtré. Mais ça, tu vérifies, tu peux vérifier si c'est stérile ou pas. Tu vois, tu prends ta solution, tu la mets sur une boîte avec du minimum nutritif, tu vois bien si ça pousse ou pas, quoi. Et s'il y a quelque chose qui pousse, ça veut dire que ton truc de départ n'était pas stérile, quoi. Bref, il y a un certain nombre de critères à respecter, mais voilà. Je veux dire, c'est pas la mer à boire, quoi. Tu as besoin d'une cocotte minute, d'un bec benzène, de savoir-faire, et c'est beaucoup de savoir-faire en fait. Savoir-faire une boîte de pétri, hein, franchement, c'est pas bien compliqué. Voilà.
Très compliqué.
Et tu filtres et c'est tout, quoi.
La purification, tu as mis un filtre qui ressemble à un filtre d'adoucisseur d'eau.
Ouais. Ça, c'est parce que l'idée que j'avais au départ, c'était de faire des trucs à grosse échelle. Mais en fait, des filtres qui vont au bout des seringues, moi c'est ce que j'utilise tous les jours. Tu sais, tu prends une seringue, puis au bout de la seringue, tu mets un filtre. Et du coup, ça te permet de dégager, il n'y a plus de bactéries qui passent. Donc tu prends plusieurs mailles de filtre, et du coup, à 0,22 microns, tu n'as que les bactériophages qui passent.
D'accord. Parce que le bactériophage est nécessairement plus petit qu'une bactérie.
Bah oui, c'est un virus par rapport à une bactérie. Ouais,
il est 100 fois plus petit environ.
Alors, c'est marrant parce qu'on a un camarade de nous qui pourrait être intéressé par la démarche. Vous pouvez voir sur water.fr, WOTR. C'est un gars qui est un sympathisant, qui est venu une paire de fois, qui va nous filer d'ailleurs un moteur, un extracteur d'air. Et lui, il est water, c'est une start-up en fait où il travaille justement sur de la filtration pour arriver à pas la rendre potable, mais en tout cas à récupérer tes eaux lourdes et à pouvoir les rendre assez propres pour les mettre dans ta chasse d'eau ou faire avec, tu vois.
Notamment dans les phosphates du mec, il y a des yachts d'importance, il y a des instruments de yachts, enfin, si c'est toi qui es en train de se battre comme si tu
fais
des potables. Et il y a des trucs qui utilisent un peu ce cas-là, il faut avoir un système moins contraignant.
Voilà, donc je faisais pour ça aussi.
Ouais, donc voilà, après il nous faut un frigo, un congélo pour pouvoir conserver, et puis les gens qui...
Et des femmes.
Et des femmes. Ouais. Je suis très très désappointé qu'il n'y ait pas de femmes.
Les femmes avec des cagoules et qui ont mal au ventre ou qui sont enceintes, je ne sais pas trop.
Non, en fait, cette présentation, je l'ai faite justement aux apatistes, et ça c'est une apatiste.
Ah, c'est pour ça que t'es compact.
Voilà. Ah, c'est le West Coast, le Baptiste. Parce que ça prend de la place à conserver, tu vas me porter les uns, c'est
sérieux. Ah non, tu les gardes au frigo.
Non, c'est, voilà, on parle de bois comme ça.
Ah ouais.
Et le froid à long terme n'a pas de...
En fait, tac. Non. Enfin, si... Chaque année, tu as un log de différence, tu as 10 fois moins.
Ouais.
Mais si tu veux, tu pars au départ avec des concentrations de 10 puissance 12, donc des millions de milliards, tu vois.
N'importe quel probiotique qu'on te vend.
Voilà. Dans n'importe quel truc, ils te vendent des millions de bactéries. Et ça, c'est super facile à faire, quoi. Donc voilà, donc du coup, c'est un peu ça l'idée que moi j'aimerais défendre. C'est si on fait un do-it-yourself biology, est-ce qu'on fait microbiology ou est-ce qu'on fait biology? Moi, je suis plutôt tendance micro, mais bon, pourquoi pas. Et donc, du coup, voilà, la question, c'est, on a les 5 W, qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je suis pour faire les bactériophages, des probiotiques aussi, pourquoi pas. Mais en même temps, moi-même, je fais mes yaourts, je fais mon kombucha, je fais de la bière, tu vois, donc je veux dire, c'est des trucs, tout ça, c'est de la microbio, quoi. Et en fait, la microbio, quand tu regardes, le pain, c'est de la microbio, c'est tout ça. Donc on en fait tout.
Que tu bois, c'est...
Voilà. Bon, ça, la CS64, hormis le fait que je te remercie de me l'avoir offert, c'est limite de la microbio, quoi, parce que...
Ouais.
Ils ont tout filtré. Donc voilà, donc du coup après, bon moi j'ai essayé de lister les différents trucs, mais c'était plus pour ouvrir la discussion quoi. Voilà, quoi, pourquoi, qui. Donc ça me paraît important que dans le qui, il y ait un peu de tout. Je me dis notamment que un des trucs qui pourrait être intéressant, c'est les malades, parce que on a pas mal de gens qui disent non, mais tu vois, par exemple, aujourd'hui en France, tu as une infection à staphylocoque doré multirésistant, tu vois, parce que tu as une infection. Je veux dire, moi, c'est arrivé à un pote, il a juste eu un poil qui s'est infecté. Je veux dire. Il n'a rien fait d'autre que ça, quoi. Il n'a rien fait. Et il avait un staph multirésistant. Bon. Heureusement, il s'est fait inciser, ils ont réussi à tout virer. Mais grosso modo, ce genre de truc, aussi stupide que ce soit, au bout d'un moment, on te dit, bah, je suis désolé, il faut couper. Sinon, ça remonte. Alors que tu utiliserais des phages, ça marche super bien sur le staphylocoque doré.
Tu sais, dans le monde, il y a des rapports.
Ouais, c'est ça.
Il y a des rendus de phages qui s'en sortent super bien avec un staphylocoque doré.
Et ouais. Et maintenant, il y a un commerce et un tourisme médical qui est en train de se développer.
Donc,
pour aller en Géorgie.
Il va y avoir un darknet pour attraper, pour acheter des pages, c'est sûr. Enfin, c'est hallucinant que la drogue et les armes, mais là, ils vont chercher des médicaments, des vrais médicaments légitimes pour des trucs qui sont pas bons. Ton exemple de en banquant aussi. C'est fou, mais que sur la France, c'est pour des médicaments.
D'accord. Mais je pense que justement, typiquement, de constituer un groupe do it yourself, c'est pour le faire de manière, enfin tu vois, local. Pour qu'on le fasse tous ensemble, voilà, de manière locale, raisonnée, quitte à, moi je suis tout à fait pour faire débarquer des phages de Russie et puis les amplifier, tu vois, par exemple, parce qu'on a, on peut le faire.
Phages
électriques.
Les amplifiés, c'est des phages électriques.
Ouais. Donc après, est-ce qu'on fait dans un garage, est-ce qu'on fait dans un labo de l'université, ou une salle, ou ici, ou un squat, ou voilà. La seule chose qui
peut. Pas à cause de un labo d'université, sur ton graphe dangereux et légal, tu vas pas pouvoir faire.
Exactement.
Avec une collègue, on voulait justement faire une MNSO à la fac de bioactive, puis on a discuté avec une collègue avec qui c'est déjà une MNSO, un peu, on a capté que c'était mort.
Ouais, en même temps, tu vois, la paillasse à Paris, ils sont subventionnés par la mairie.
Bon, après la paillasse, leur positionnement politique, je suis pas.
Non, mais bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que. Il y a une tendance actuelle des politiques à se dire ah ouais c'est important tu vois le tout ce qui est sur le logiciel libre on aurait pu dire ah ben non mais jamais les institutionnels n'iront subventionner quoi que ce soit il y a plein d'endroits où le logiciel libre il est hyper subventionné notamment parce que ça nourrit toute l'innovation, tout le capital, quoi.
Oui, puis il y a aussi eu des promoteurs extrêmement convaincants sur cette question-là, qui arrivaient à convaincre des gens qui n'auraient pas été convaincus par un chevelu barbu.
Ouais.
Alors François Pellegrini, qui est un mec de Bordeaux,
c'est un type qui en plus il est député, etc. Et c'est un des gars qui a mis en place les RMLN il y a 15 ans à Bordeaux. C'est lui qui est allé se battre à la Commission européenne contre le logiciel en 2005. Ce mec, il va parler à un chef d'État ou à un truc. Le mec, il est convaincu, quoi. C'est un universitaire chevronné. Et le mec, il te prend, il t'explique que t'as pas le choix et que c'est le seul avenir possible. Mmh. Et avec ce côté de travail, tu le crois, tu vois.
T'as connaissance de mecs dans ce genre-là, de ce genre de calibre, en local ou en national, pour la cause de. Tu vois, le logiciel libre, c'est quand même un truc où, quand tu es militant dans ce truc-là, ça prend du temps, machin. De temps en temps, la gendarmerie prend un peu d'office, on fait une histoire super. et est-ce qu'il y a des pèlerins, des mecs comme ça, dans l'univers de logiciel?
Que je connais, non, et notamment parce que je pense que bon, moi, comme tu as pu voir, j'ai une position politique relativement à gauche, et donc du coup, dans le do it yourself, je pense qu'il y a la même chose en fait dans le hacker, dans tous les hackerspace versus Fab Lab, quoi. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire d'un côté tu vas avoir les entrepreneurs, et d'un autre côté, tu vas avoir les révolutionnaires. Dans le Do It Yourself Biology, il y a des révolutionnaires, mais ils sont plus aux États-Unis, je pense, notamment.
Ah ouais. Plutôt américains. Ouais, c'est les États-Unis. La liberté, libertarisme.
Voilà,
c'est un truc. États-Unis, après quelques-uns.
On a un système de santé.
États-Unis, quelques-uns.
C'est ça qui finance, du coup, t'as plus de notions à vouloir.
Oui, mais quelques-uns en Grande-Bretagne, après en Russie, on ne sait pas parce qu'ils sont ultra fermés.
Ouais.
Mais apparemment, il y a des mouvements. Tu sers assez importants en Russie, mais ils sont tellement fermés qu'en fait, on n'en sait rien.
Oui, mais sur le site doityourself.org, il y a des sites en Russie, et moi typiquement, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de rentrer, si on monte un groupe à Montpellier, ce serait de rentrer en contact avec les Russes pour qu'ils nous envoient...
Ouais, aussi parce qu'eux, ils ont accès au truc.
Bah ouais.
T'as connaissance dans l'autre cas que ce truc sur les pages qui concernerait la microbiologie dans un autre pays qui ne serait pas continental, j'allais dire, mais en fait, dans l'asiatique, je sais dire où suivre le truc, mais.
Non.
Par exemple, est-ce que la carte du DIY biologie, du biohacking, elle est occidentale?
Oui. Non, il y a en Asie. Il y a un peu en. J'allais dire en Afrique, mais je suis pas sûr. Bon, on peut regarder, hein. Après, juste. Attends, ouais. On peut regarder. Après, voilà, j'ai fait juste la liste de comment, et puis, voilà, de dire il faut un site web, il faut, voilà, des trucs hein, en interne, en externe.
Une coopération comme une autre, je vais dire.
Voilà, c'est ça. Exactement. Et donc, voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que là on voit qu'on est vous êtes 4 et moi plus moi 5
et on est politiquement pas brillant en marketing et en réunion de gens.
C'est
ça.
On
est débordé par nos emplois du temps, je suis désolé qu'il y a aussi peu de monde.
Non mais
parce qu'il y a plein de gens qui sont ouais,
voilà, ouais, ouais, c'est la vie, mais... oui, c'est la vie, c'est toutes les personnes ouais, qui pourraient être intéressées à la fac, c'est les branleurs. Enfin, non, c'est pas des branleurs justement parce que ils vont en couvre, mais
donc, on pourrait réfléchir à la question de comment éliminer biologie, une truc qui fait penser au TP de lycée pour que ça fasse les gens guérissez-vous.
Non, mais c'est pour ça que moi, je pense que le côté...
Ça me passe par la tête parce que c'est un peu... Voilà, j'ai étudié ça quand j'étais plus jeune, mais c'est... Effectivement, c'est... biologie, c'est une cours de biologie, donc, machin, je suis un littéraire. Ouais, j'ai besoin de probiotiques parce que je refuse de manger du yaourt sur un percentile. Mais je vais acheter mes propres données de type, un truc. Donc, voilà, une histoire de monde, mais c'est juste, je vous dis en fait,
Non, non, c'est hyper important, mais bon.
D'ailleurs, j'aime bien la façon dont tu écris microbiologie. Je sais, je suis un peu votre avis, mais. Voilà, trouver un truc entraînant. Ça ne donne pas que les mecs de Barcelone cartonnaient en commençant à vendre la bière.
Ouais. Alors,
Non, mais vite. Non, mais tout simplement, tu fais des cours. Tu fais des cours pour apprendre à brasser la bière. C'est l'immensité d'une personne qui vient.
Ils sont pas dans l'émancipation des populations dominées, tu vois ce que je veux dire, c'est
partage de savoir,
Il y a un partage de savoir.
Et derrière, il y a un bon, mais il y a l'idée de, viens, des gens qui, de temps en temps, qui font des journaux, qui viennent travailler une demi-journée, à chercher, à faire le truc, déjà, ils ne sont pas avec eux, mais on ne parle pas de l'autre aussi. Mais de, tu vois, de rendre ces signes de la paillasse, la paillasse, c'est des mecs qui ont super bon gouvernement. Mais c'est vrai que moi, j'étais un littéraire, dans le bio, la science, grosso modo, je faisais chier parce que j'ai pas de niveau en maths, j'ai pas l'intérêt ni le format horaire, ni les liens, ni le terrain, j'avais une demi-heure de bio par semaine. Donc, c'est compliqué. Mais par contre, les gens me disent, mais attends, mais si le truc-là sert à quelque chose, comme si tu te rends pas compte que ça sert à quelque chose.
Entre autres choses, on travaillait sur la dimension éducative et du pop de la tendresse. Une intervention comme ça, ça rentre tout à fait dans le temps. Juste le côté médicaments, les phases, qu'est-ce que c'est, finalement, tu peux les cultiver toi-même, et il y a des pays où c'est en vente libre, alors qu'il y a ce blocage en France ou dans nos pays. Le public qu'on a, il va être de toute façon déjà sensibilisé à la position dominante et privatrice des labos, etc. Et de toute façon, leur intérêt, c'est pas de guérir les gens, forcément, sinon ils auraient changé de business.
Ouais.
Et là-dessus, il y a un vrai contenu informatif qui déjà trouverait sa place. Rien qu'en termes de présenter ça à des gens, en discuter, etc. Donc ça peut populariser l'idée, déjà au départ, et ça c'est bien parce que ça augmente le socle de personnes qui sont réceptives en tout cas, même si elles ne vont pas être intéressées pour aller agir dedans. Mais sur 10 personnes qui vont être, ou 100 personnes qui vont être sensibilisées au truc, il y en a un pourcentage de toute façon qui va dire « Ah, mais je peux participer !»
Ouais.
Fatalement. Que ce soit des kidam ou que ce soit des profs de fac qui disent « Ah, mais c'est bien, ouais, finalement c'est pas mal. Je peux... je vais filer un coup de main, on pourrait... Parce que si t'as pas un local propre, qui ferme à clé, avec un accès limité, comment tu fais, tu vois? Tu peux faire ça dans un espèce de couveuse... Avec des gants, tu peux faire un boulot dans un espace totalement cloisonné, où tu mets les mains dans des gants.
vois ce que je veux dire?
Ouais, ouais, bien sûr. Pas, ouais, mais ça, on n'a pas besoin de ça, parce que...
De toute façon, je pense pas qu'on va être trop pathogène.
Ouais, bah ça dépend, parce que quand ouais. même, tu vois, typiquement, l'exemple que je citais tout à l'heure, sur t'as un staphylocoque doré multirésistant,
ouais, staph doré,
et ben là, tu vois, tu peux faire assez facilement d'aller l'isoler, mais là, tu travailles déjà avec une bactérie voilà. Et donc du coup t'es obligé d'avoir des normes de sécurité. Après moi je le sais d'autant plus parce que je travaille là, tu vois, moi je travaille avec des normes de sécurité de niveau 2, hein, je veux dire c'est pas grand chose, hein, c'est juste qu'il faut faire attention à 2-3 trucs. C'est pas énorme, hein, les niveaux de sécurité de niveau 2.
Ouais, mais je suis renseigné dessus.
Donc on peut le faire. Après, forcément, il faut que ce soit fermé.
De manière pour un ou.
Ouais. Commencer par un ou dans ce genre de choses. Ouais, mais non, pour moi, il ne faut pas commencer par un ou, parce que tu peux commencer par des gens qui réfléchissent à un truc.
Un qui déjà. Donc, ouais, un qui déjà. Ouais, un qui déjà. Réfléchir sur.
Tu vois, tu peux. Il y a quand même plusieurs.
Tu commences à réfléchir sur un coup. Tu peux aussi commencer sur un quoi. Ah oui, comme ça. Ah, tu sais quel genre de personne tu dois aller voir. Parce que
Quel
genre d'endroit tu as besoin. Bon, par contre, pourquoi ça a toujours été une question de merde?
Non. Moi, je trouve que justement, c'est ça qui m'a vachement plu chez les apatistes. Ils ont dit, mais attendez, les gars, votre recherche, il faut la faire pour l'émancipation. Point, quoi. Et moi, ça me va très bien. Après, je suis pas en train de dire qu'il faut qu'il y ait que de la recherche comme ça. Mais aujourd'hui, quand tu regardes la recherche scientifique qui a comme objectif l'émancipation des populations dominées, il n'y en a pas beaucoup, bizarrement. Et en plus, il n'y en a pas beaucoup qui le disent. Tu vois ?
Oui, il y en a quasiment rien.
Et quand tu le dis, moi, au labo, là, les gauchistes, je veux dire, c'est bon, hein, on est 2-3, on est montré du doigt. Hein. Heureusement, il y en a qui sont brillants, donc ça va. Mais ils n'aiment pas ça, parce qu'on
j'ai été mes profs en bio sur les 3 ans, avec principalement des gros libéraux
bien existants. Ben, bien sûr.
Dans la recherche,
t'as...
Dans la recherche, parfois,
t'as plein de
chercheurs qui
pèsent, quoi.
En
marche, c'est fou.
Maintenant, t'es en marche, mais...
Ils sont en marche, t'as l'air de l'autre. On est en l'air selon.
Ouais, c'est ça.
Et t'as des contacts locaux, t'as des gens à qui t'en as parlé et qui sont partants, qui ont le temps.
Il y a les 5 W. Je défends cette idée, mais on peut dire que je suis assez seul. Alors après, il y a un gars qui bosse à l'INRA qui est chaud et qui dit, mais lui c'est plutôt le côté, je le sens très avoir envie de, voilà, de s'amuser, tu vois, le côté.
Je pose la question, mais je pense que la réponse est juste une minute dans le temps et de ne pas avoir jamais un
sujet. Après, je pense que ce qui serait pas mal, c'est d'avoir les médecins aussi. Des médecins.
Les médecins,
qui essayent de sortir de leur système. C'est difficile.
Mais pourtant,
tu me disais, ils devraient en avoir. Au moins, les étudiants n'ont peut-être pas fini les études, mais qui ont été la dernière année ou avant la dernière année.
Ouais, je sais pas.
Dans une ville où il y a beaucoup, on est spécialisé dans la médecine, enfin il y a beaucoup
d'études dans la médecine. Bah oui, c'est la plus belle école de médecine d'Europe, si tu veux. Mais le profil, ce serait plutôt quelqu'un qui. À mon sens, un étudiant sera intéressé en tant qu'étudiant, ouais. Mais un médecin, lui, depuis 20 ans, voit des patients, il aura une autre expérience et là il aura peut-être une pertinence supplémentaire en disant ouais, ça c'est vraiment la clé à mon problème. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Un étudiant, même à l'interne, il n'a pas encore cette il n'a pas encore la frustration de 20 ans de pratique et d'avoir vu 1000 patients et pour lesquels il a eu une solution foireuse estampillée Novartis, tu vois. Donc, ça peut se poser. Alors, moi, je connais. J'ai mon médecin de famille là, qui est un gars plutôt ouvert, assez sympa, qui serait sans doute intéressé. Après, je suis pote aussi avec Jean-Luc Pujol, qui est professeur à Arnaud-Villeneuve, mais plutôt en oncologie, concernant son colon, etc. Alors, sur le côté infectieux, il a forcément une expérience aussi.
Ouais.
Et puis, c'est un gars plutôt ouvert, quoi.
Après, il y a deux choses. Il faut voir le côté institutionnel et puis le côté politique, quoi. Et sur le côté institutionnel, moi, bon, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, moi, je suis comme... Pour moi, maintenant, il y a un continuum entre ce que je fais le jour et la nuit. C'est que le jour, je fais de l'institutionnel, la nuit, je fais du politique et vice-versa, parce qu'en fait, je fais du politique aussi le jour. Et je pense que, enfin, notamment je travaille à Arnaud-Villeneuve aussi, et donc j'essaye petit à petit de faire rentrer la thérapie phagique dans les pratiques. Bon, mais c'est dur parce qu'en fait il y a eu des échecs, etc. Donc les mecs ils vont les uns après les autres de manière complètement solitaire en fait. Et c'est, moi, là, ce qui m'intéresse dans le, ce qu'on pourrait faire, c'est aussi l'aventure collective qui m'intéresse.
Oui, parce qu'en termes de soins, enfin, de pratique médicale, on en est encore un peu loin. Il me semble avoir vu un article il n'y a pas très longtemps sur le fait qu'on ne s'attendait pas à ce que ce soit le cas, mais il semblerait que les bactéries peuvent communiquer entre elles. C'était par rapport au blob, je crois qu'il disait.
Le blob, c'est autre chose. Hein.
Les cellules communiquent entre elles, même si elles ne se touchent pas. Il y avait un moyen qu'il y ait de l'info qui passe. Alors, dans ce cas de figure-là, c'est plutôt de la recherche que de l'application possible en médecine, etc. Parce que quand tu vois les années qui se passent entre une série d'expériences qui fonctionnent, genre. Les cellules souches pour Parkinson, il y avait encore un article le mois dernier dans un magazine scientifique là-dessus. Moi j'ai mon père qui est Parkinsonien depuis pas mal de temps, tu vois, qui est opéré et tout, donc c'est vu, enfin bref. Et je me suis fait un petit peu, et puis en fait, tu lis un article, tu dis waouh, c'est vachement intéressant, et en fait, dans 10 ans, ça sera peut-être ça dans la médecine. Parce que le processus de validation.
Ouais. Sauf que là, tu vois, les bactériophages.
La fondamentale et l'applicatif, il prend 10 ans. Quoi.
Non,
et ça fait râler. Hein.
Mais les bactériophages, ça a été découvert avant les antibiotiques.
Oui, tu disais, c'était. 1917. Ouais, voilà, c'est 1917. La révolution d'octobre.
Pourquoi je ne fais pas imposer un petit peu
ça s'est imposé au départ.
Et quel était l'intérêt des antibiotiques? C'est le début de l'industrialisation du milieu?
Eh bien, alors, il y a deux choses. Enfin, il y a plusieurs arguments. La raison pour laquelle les antibiotiques ont pris la main sur les bactériophages. La première des raisons, c'est que les antibiotiques, c'est un spectre large. Tu vois un symptôme, tu vois, ça doit être à peu près ce type de bacto, tu mets le chalumeau, tu détruis toutes les bactos qui sont là, et puis, le symptôme disparaît. Donc, c'est à la fois l'avantage et ça a les inconvénients.
Et puis, c'était antérieur, Fleming, la pénicilline, c'était antérieur à 1910.
Non, c'est 29, Fleming.
Ouais.
D'accord.
La pénicilline, c'est
29, ouais.
Non, c'est quoi?
C'est un antibiotique qui est produit par un champignon qui détruit les bactéries. La découverte, c'est soi-disant, il aurait oublié une boîte de Petri, comme je t'ai montré, sur son, pendant le week-end. Et puis, en fait, il y a un champignon qui a poussé dans la boîte de Petri dans laquelle il avait fait pousser des bactéries. Et autour du... Donc, il voyait bien le champignon, et autour, il n'y avait pas de bactéries qui avaient poussé. Mais regarde, c'est quand même bizarre qu'il n'y ait pas de bactéries. Et donc du coup, il a répété ça et il a vu que le champignon produisait une molécule qui tuait les bactéries. Et c'est comme ça que... Bon, dans les
ouais.
dans les faits, il semblerait que ça, la production d'une molécule bactéricide avait déjà été décrite 20 ans avant, mais que bon, que seul peut-être lui-même était au courant. Mais bon, donc, pourquoi les antibiotiques ont pris par le sujet? Parce que si tu veux, DRL, donc c'est en 1917, le mec qui a décrit les bactériophages et qui était médecin, enfin, qui n'était pas médecin, il était laborantin, et qui a fait la promotion des bactériophages. Donc effectivement, il a soigné la peste bubonique, le choléra, tu vois, il a vraiment, il a été partout dans le monde pour dire, moi, je soigne tout. Et le problème, c'est que il y a plein de fois, le tout vide du coin, il va te filer les antibiotiques alors que c'est une otite virale, tu vois. Ou que même, c'est simplement une allergie. Donc, tu vas avoir, pour le même symptôme, tu vas avoir trois causes. Et l'un des problèmes, c'est que donc lui, il a fait la même erreur, sauf que là, les entreprises qui ont fait les antibiotiques, eux, ils se sont fait un plaisir de dire que les bactériophages c'était que des conneries, parce que ils soignaient aux symptômes, alors qu'en fait, il aurait fallu être beaucoup plus précis que ça. Il aurait fallu isoler les bactéries. Et voir quels sont les phages qui...
Non, maintenant,
on savait déjà faire à l'époque, mais...
moins cher de produire.
Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, un médecin, quand tu viens le voir, moi, j'ai discuté avec des toubibs. Le toubib, lui, ce qu'il veut, c'est que tu ressortes et que tu viennes plus le revoir. Parce que lui, c'est son but. Son but à lui, c'est de te guérir. Il s'en fout comment, mais il veut te guérir. C'est pour ça que tu viens le voir. Donc du coup, lui dit, ok, je lui donne un antibiotique, je suis sûr que ça marche. Ou je suis... Alors après, ça a des effets secondaires. Mais voilà, est-ce que c'est important, c'est pas important? Jusque dans les années 90, c'était pas important. Parce que les multirésistants, hein, finalement, on s'en foutait. Et là, maintenant, c'est pas pareil. Donc c'est le court terme versus le long terme qui est complètement qui sont antagonistes en fait.
Pour revenir sur les trucs de technique, c'est quand tu dis bon, mais tu récupères les bactéries, c'est une chose qui t'amène du bactériophage et qui ensuite toute la population de bactériophage s'accroche à l'armement, etc. C'est des générations observables, on parle de quelques impactants, de mutations de bactéries sur les trucs.
Alors, tu veux dire la course aux armements?
La course aux armements, mais je ne sais pas que l'observation.
Jour après jour. Si tu veux, moi au laboratoire, tu prends une bactérie, tu mets des bactériophages dessus, tu laisses les bactériophages infectés. Dans la nuit, tu as des bactéries résistantes qui arrivent. C'est hyper rapide.